L'invité à la une, votre rendez-vous politique et société.
Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot.
Chroniques, interviews, reportages, débats, l'équipe de Cité à la une décrypte pour vous un sujet de l'actualité de Nantes et sa région.
Oui, mais dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures.
Jusqu'à 14h, la parole politique, associative et citoyenne est sur Prune.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cité à la une sur Prune 92 FM ou en streaming sur le www.prune.net où vous pouvez d'ailleurs retrouver tous les podcasts de votre émission politique et société. Aujourd'hui, un nouveau sujet de société, mais qui est aussi politique, c'est l'enjeu des données personnelles sur Internet. Et à la réalisation, c'est Boris qui nous accompagne et exceptionnellement à mes côtés pour parler de données personnelles, Will.
Chaque minute, 350 000 tweets, 15 millions de SMS, 200 millions de mails sont diffusés. 300 heures de vidéos sont postées sur YouTube et Facebook. Alors que deviennent toutes ces données? Quelles valeurs ont-elles? Sommes-nous dans l'ère Big Brother? C'est le type de questions auxquelles on essaiera de répondre. On s'intéressera également à la législation en termes de données personnelles, notamment à au projet de loi numérique adopté en première lecture au Sénat il y a 2 semaines.
Et toutes ces questions, nous y répondrons avec nos invités, Marie-Pierre L'Hôpitalier, avocate à Nantes, spécialisée dans le droit informatique, et Anaïk Denis, membre de Fait Maison, qui est un fournisseur d'accès à Internet associatif. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour. Bonjour.
On écoutera aussi une interview réalisée par Maxime de Fabrice Matatia, auteur du livre Le droit des données personnelles, et bien sûr les chroniques de Nico Lucero et Guillaume Aubois, qui nous a réservé une surprise. Cité à la une, on est ensemble jusqu'à 14h.
Cité à la une sur Prune 92 FM et le www.prune.net.
Alors, les données personnelles, c'est un marché qui est très lucratif aujourd'hui. En 2010, ça représentait 315 milliards d'euros, un chiffre qui pourrait atteindre 1000 milliards en 2020. On aimerait comprendre en fait comment se passe ce marché. Est-ce que ce sont les entreprises qui achètent les données pour pouvoir cibler leur publicité, Anaïk Denis?
Alors, en fait, il y a un certain nombre de, qu'on appelle les géants d'Internet, d'entreprises, qui sont, qu'on va plus tard appeler les GAFAM, donc c'est Google, Facebook, Amazon,
Microsoft.
Il y a eBay aussi, des fois, qu'on met dans le lot, qui, de par leur activité, collectent beaucoup, beaucoup, beaucoup de données personnelles des gens. Et en fait, le modèle économique de ces entreprises-là, c'est de monétiser ces données-là, en particulier pour de la publicité ciblée. Donc derrière, il y a des entreprises dont on ne connaît pas du tout les noms, dont je ne me rappelle pas d'ailleurs, dont elles, le business, c'est de vendre des données pour, par exemple, faire du comportement prédictif, pour faire de l'affichage de publicité ciblée. Et par exemple, il est connu que Google analyse tous les mails pour afficher une publicité ciblée dans le webmail de Google quand vous allez consulter vos mails.
Donc toutes ces grandes entreprises ont un profil type de chaque utilisateur et ensuite les revendent à plusieurs entreprises qui voudraient vendre de la publicité ciblée.
Bah, elles ont toutes les données qui permettent d'utiliser les technologies de Big Data, qui donc sont des technologies d'analyse assez complexes de statistiques. Et un des métiers d'avenir, c'est de faire data scientist d'ailleurs. C'est très très bien payé, mais après on peut se poser des questions sur l'éthique du travail.
Et à part la publicité ciblée, quelle est l'utilité du traitement des données s'il y en a une, Marie-Pierre L'Hôpitalier? Est-ce qu'il y a une autre utilité que la publicité ciblée ou les données ne servent qu'à ça?
Mais oui, je pense qu'il y a d'autres utilités puisque en fait on a aussi tout ce qui est données anonymisées, donc on enlève la relation avec une personne particulière, une personne physique, et ça permet également d'avoir des statistiques, d'envisager les usages des objets, les usages que l'on peut pour améliorer le confort, pour améliorer, c'est tout ce qui est objets connectés, c'est aussi, et c'est important de le dire, pour tout ce qui est données sensibles, lorsqu'on les anonymise, ça améliore également la prédiction pour la santé notamment. Et là, c'est un gros, gros marché. C'est pas forcément des données personnelles, c'est aussi de la recherche.
Alors, vous avez parlé d'objets à l'instant, les objets connectés, ils vont collecter énormément de données également. Comment ça va se passer à ce niveau-là? Est-ce que ça va améliorer encore les profils pour de la publicité? Est-ce qu'on peut imaginer que ça va servir à autre chose? Comment vous voyez les choses?
Alors, je parle juste au tout début. Enfin, ça va pas changer. C'est-à-dire que les données sont déjà collectées et on va les utiliser pour ensuite avoir un impact sur les objets. Alors, il faut savoir que les données sont organisées dans des bases de données et que à l'origine, en France, on a l'obligation d'avoir le consentement préalable. Je le rappelle dès le début parce que après, on va partir sur de l'étranger et c'est différent. Enfin, Google, Facebook, etc., dont on a parlé au tout début. Il faut savoir que là, on est en France, et on a une législation qui est sévère, il faut l'utiliser, il faut que chacun, en fait, soit responsable de ses propres données. Je crois que il faut pas être naïf, et bien au contraire, utiliser la loi que l'on a, qui est assez sévère en France, qui correspond à la directive européenne, et on est très très en avance. Donc, autant utiliser les outils qu'on l'on a, et la CNIL est à un budget qui a été augmenté petit à petit, qui a tout un réseau de contrôle sur pièce et sur place, et qui a aussi un call center pour pouvoir venir en aide aux soucis qu'on pourrait se poser.
Quand vous parlez de l'autorisation préalable, vous faites allusion à la directive de 1995 par rapport aux cookies.
Oui, c'est ça qui a été en fait, alors notamment, hein, mais en fait chez nous, ça date de 1978, c'est une très très vieille loi, enfin une très vieille loi, j'exagère en disant ça, mais
la loi informatique
Internet,
et liberté.
Oui, la fameuse 78 qui va là sans doute évoluer beaucoup avec la directive européenne qui va arriver là, mais il n'empêche que c'est les fondements en France sont quand même très très solides sur la protection des données personnelles. Après que des entreprises aillent au-delà, c'est notamment des sociétés étrangères. On a vu que le CFARBOR, vous savez, c'est la règle qui disait que les données françaises pouvaient être transférées aux États-Unis parce que on avait les États-Unis s'étaient engagés à respecter ces fameuses règles de CFARBOR, ont quand même été supprimées par la France, et donc maintenant on n'a plus le droit de transférer des données françaises, des données personnelles françaises aux US.
Donc, mais est-ce que c'est vraiment appliqué ça, Annick Denis?
Alors, a priori oui, par contre il y a un Safe Harbor 2 qui est en cours de négociation et qui va réautoriser l'exportation de données. Enfin, je pense que maintenant le gouvernement n'a plus rien à faire de ce genre de questions. Et puis la problématique des fois est de savoir est-ce que l'entreprise relève du droit européen ou pas. Par exemple, un certain nombre de ces géants-là ont des sièges sociaux en Irlande. L'Irlande, ça fait partie de l'Europe, et c'est comme ça que il y a deux étudiants qui ont demandé à Facebook d'avoir savoir tout ce que Facebook connaissait sur eux. Ils ont reçu un nombre de milliers de pages PDF.
1222 pages.
Voilà, je connais pas les chiffres exacts.
Maxime avait fait une interview avec Fabrice Matatia qui nous parle spécifiquement de ce cas de cet étudiant autrichien qui a demandé à Facebook ses données.
Voilà, donc il s'est aperçu qu'il y avait vraiment des données très importantes, mais il y a un autre problème, par exemple, c'est que Facebook va collecter des données, y compris sur des personnes qui ne sont pas utilisateurs de Facebook. Il crée des profils fantômes, à chaque fois que les personnes importent leur carnet d'adresse pour trouver leurs contacts et avoir des nouveaux amis sur Facebook. Donc il crée un profil fantôme. Et avec le système des boutons like que les gens mettent sur leur site web pour lier leur contenu de site avec leur compte Facebook, eh bien, quand je navigue dessus alors que je n'ai pas de profil Facebook, Facebook alimente quand même une base de données sur moi alors que je ne suis pas utilisateur, donc je n'ai jamais donné d'autorisation explicite ni implicite n'étant pas utilisatrice du service. Et ben, ces données-là, ils se retrouvent à les monétiser derrière, quoi. Ça reste problématique, hein.
Donc on est vraiment dans l'ère Big Brother, on est observé de partout.
Oui, oui, oui. Et puis après, il y a des entreprises qui jouent pas forcément les règles du jeu là. Et toutes les semaines, on voit des nouvelles affaires sortir autour des problèmes de données personnelles qui soit ont fuité, soit sont pas collectées et traitées raisonnablement.
On pense notamment à LinkedIn qui a eu plus de. Il y a eu un article dans Next Impact aujourd'hui où ils ont constaté qu'il y avait plus de données encore qui étaient sorties.
117 millions de comptes ont été hackés. Donc ça veut dire qu'ils ont les identifiants et alors ils n'ont pas directement le mot de passe parce que normalement quand on stocke dans une base de données le couple identifiant mot de passe, on stocke pas le mot de passe comme ça en clair. Je sais pas si vous avez choisi mon mot de passe comme mot de passe, c'est pas ça qui a écrit. Il y a une procédure de j'ai que le terme anglais
cryptage.
De hachage.
Cryptage, une cryptologie.
Ouais, oui, qui est mis, et du coup c'est une chaîne de caractères depuis laquelle on ne peut pas revenir vers le mot de passe. Ça, on peut pas le faire dans l'autre sens. Par contre, les hackers se sont amusés à traduire, à transformer, par exemple, tous les mots du dictionnaire de toutes les langues dans ces, en faisant ce hash. Je suis désolée, j'ai plus le terme français. C'est des clés de contrôle. Et du coup, la comparaison devient très très vite. Plutôt que de devoir utiliser le service et de tester plein de mots de passe, ben dans la base de données, on va comparer la chaîne chiffrée du mot de passe
Ils auront la lettre E dans toutes les langues possibles et inimaginables, et donc ils vont pouvoir la retrouver.
Je sais pas si c'est par lettre que ça marche, mais déjà, par exemple, tous les mots du dictionnaire, ils les ont. Et donc, si quelqu'un utilise un mot du dictionnaire, ce qui est malheureusement très 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 fréquent, eh bien, la comparaison devient très rapide. Et du coup, bah, tous les comptes dont on a trouvé le mot de passe peuvent être vendus. Et ça a une certaine valeur monétaire.
Et quelles sont les conséquences concrètes alors pour l'utilisateur ?
Eh bien, le problème, c'est que très souvent, les utilisateurs utilisent les mêmes mots de passe sur tous leurs comptes. Donc, et en plus, on s'enregistre avec une adresse mail. Donc déjà, il y a un accès à votre compte de mail. Et en général, avec votre compte mail, eh ben, on peut faire des procédures de récupération de mots de passe sur tous les sites sur lesquels vous êtes enregistré. Et donc derrière, usurpation d'identité, par exemple. C'est, voilà. Et les usurpations d'identité, enfin, les personnes qui en sont victimes, c'est vraiment très, très, très problématique.
Alors, il y a une anecdote que je voulais raconter qui n'est pas vraiment directement liée au numérique, mais c'était en 2012 à Minneapolis où un père se plaint auprès d'un supermarché que sa fille reçoit des bons de réduction pour des produits bébés, des couches, etc. Il leur reproche de l'inciter à tomber enceinte, sauf qu'il ne savait pas que sa fille l'était vraiment. Alors, on ne sait pas si la fille le savait elle-même.
Si, elle le savait.
Elle le savait, oui. Mais en fait, le supermarché en question le savait en raison des achats enregistrés sur sa carte de fidélité. Est-ce que c'est une histoire qui pourrait s'observer dans la sphère numérique également ?
Ah oui, complètement. Ben oui, c'est ce que Anaïk disait tout à l'heure pour la prédiction. C'est vrai qu'on a des profils de quand on va visiter un site marchand, on nous offre des bandeaux. Alors à propos de, je ne sais pas si j'ai le temps d'en parler.
Rapidement.
D'accord. À propos des prédictions comme ça et des publicités qu'on nous envoie une fois qu'on a visité tel ou tel site, eh bien il existe, vous savez, les ad blockers qui existe et que alors qui freine un peu également la visite de d'autres sites, notamment les journaux, la presse, etc. Cela dit, Google est en train de travailler sur la mise en place de adblocker sur son propre système, le système Chrome. Mais en fait, un journaliste disait que ça allait peut-être être un peu mafieux dans la mesure où si Google est payé par un annonceur particulier, alors il va ouvrir à l'annonceur la possibilité d'envoyer des publicités. Donc c'est très très retors. Je pense que vraiment on a une vraie responsabilité personnelle sur la surveillance de nos propres données.
Oui, c'est le citoyen qui doit faire le travail.
Mais ça a déjà été le cas en fait, cet effet retors. Il y a un adblocker qui était beaucoup utilisé sur Firefox par exemple, qui s'appelle AdBlock Plus, qui a été racheté, et on s'est aperçu qu'il y a eu au fur et à mesure des mises à jour, il s'est mis à afficher de la pub de sites qu'il estimait être non invasif. Et en fait, il est payé derrière. Et donc, faut changer. Arrêter d'utiliser AdBlock Plus et utiliser uBlock. Voilà.
Alors, avant de continuer cette discussion avec nos invités Anaïk Denis et Marie-Pierre L'Hôpitalier, on écoute les définitions de données personnelles par Nico dans le tour des mots.
Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile.
Définition, explication, interprétation. Cité à la une, le tour des mots.
Aujourd'hui, dans le tour des mots, nous allons explorer l'expression « données à caractère personnel ». Qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel ? En France, c'est la loi du 6 janvier 1978, entièrement révisée le 6 août 2004, dite loi informatique et liberté, qui est la référence en matière de défense des données à caractère personnel. Elle a créé la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, une autorité administrative indépendante qui a pour mission d'informer les citoyens sur leurs droits, d'accompagner les entreprises dans la juste utilisation des données, et le cas échéant de procéder à des contrôles et des sanctions si la loi n'est pas respectée. Selon l'article 2 de la loi, constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée directement ou indirectement par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. En somme, un numéro d'identification pour un site tel que Pôle emploi ou la CAF ou l'université constitue une donnée à caractère personnel si elle permet par recoupement de vous identifier. Alors que les noms, prénoms et dates de naissance constituent des données à caractère personnel direct, dirons-nous, puisqu'ils permettent de vous identifier plus simplement. D'autres données que vous pourriez considérer comme anonymes peuvent constituer des données à caractère personnel si elles permettent d'identifier indirectement ou par recoupement une personne précise. Il peut en effet s'agir d'informations qui ne sont pas associées au nom d'une personne, mais qui permettent aisément de l'identifier et de connaître ses habitudes. En ce sens, constituent également des données à caractère personnel toutes les informations dont le recoupement permet d'identifier une personne précise, une empreinte digitale, l'ADN, une date de naissance associée à une commune de résidence, par exemple. Les technologies de l'information et de la communication génèrent de nombreuses données personnelles. Un appel passé par un téléphone portable, une connexion à Internet, et aussi des traces informatiques facilement exploitables grâce au progrès des logiciels, notamment des moteurs de recherche. C'est ce qui permettra, entre autres, l'identification de la personne physique, mais aussi le traçage, GPS, cookies, et la prédiction comportementale, profilage et analyse statistique. Chaque citoyen a le droit à la protection de ses données à caractère personnel. L'article 38 de la section 2 de la loi dispose « Toute personne physique a le droit de s'opposer pour des motifs légitime à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. Elle a le droit de s'opposer sans frais à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d'un traitement ultérieur. Pour cela, il fait donc pouvoir identifier le responsable du traitement des données à caractère personnel et en informer la CNIL. Selon l'article 3 de cette même loi, le responsable d'un traitement de données à caractère personnel est la personne, l'autorité publique, le service ou l'organisme qui détermine ses finalités et ses moyens. En général, pour un secteur privé, c'est le PDG, pour un secteur public, c'est plutôt le maire ou le président. Cependant, pour qu'il puisse y avoir opposition au traitement, encore faut-il que le traitement des données se fasse sur le territoire français, sans quoi le responsable des traitements ne tombe pas sous le coup de la loi dite informatique et liberté. C'est le problème que l'on peut rencontrer avec des grandes sociétés comme Google ou Facebook. En général, le traitement n'est pas effectué en France. En revanche, lorsque Google filme les rues de ville pour le traitement des données GPS, vu que les voitures Google opèrent sur le territoire français, ces données-là sont soumises à la loi française. Toutefois, on sait que l'Union européenne a adopté le 24 octobre 1995 une directive destinée à harmoniser au sein des États membres la protection assurée à toute personne, quel que soit le lieu où sont opérés les traitements de ces données à caractère personnel. Et qu'à ce jour, les 31 États membres de l'espace économique européen disposent d'une loi informatique et liberté et d'une autorité de contrôle indépendante. Nos données à caractère personnel sont donc de forme variée, du nom, prénom et date de naissance à l'empreinte digitale ou la trace informatique laissée par nos recherches, ou encore même le traçage GPS de notre dernier voyage, nous sommes continuellement soumis à la possibilité de voir nos informations réutilisées, exploitées à d'autres fins que de simples statistiques historiques ou scientifiques. Et bien qu'il existe des instances administratives qui permettent la surveillance de leur traitement, il est tout de même difficile de savoir où vont nos données et quelles sont-elles. Les deux grandes questions sont donc celles de la surveillance des citoyens, où c'est l'appareil d'État qui est le principal incriminé, et celle de la commercialisation de nos données, où ce sont les entreprises internationales qui ne tombent pas nécessairement sous le coup de la loi, qui sont visées. En effet, si la CNIL nous permet d'assurer une certaine défense de nos données, encore faut-il que nous demandions son aide. Or, nous sommes victimes d'un certain aveuglement. D'une part, nous sommes à la fois dépassés par le nombre d'informations différentes qui nous concernent et qui peuvent être exploitées et aussi victimes de l'absence de vue directe sur l'implication de nos données dans un marché, une économie. Si l'on nous vole nos données, notre chambre reste dans le même état. Ce vol-là est invisible et si l'on ne s'en aperçoit pas, comment s'en prémunir? D'une part, sommes-nous à même de nous défendre contre la surexploitation de nos données, mais surtout, le voulons-nous? Lorsque l'on voit les quantités de données que l'on est capable d'offrir véritablement sur différents sites où l'on nous demande simplement de nous identifier, ne sommes-nous pas à une époque où la vie privée devient une affaire publique? Facebook, Instagram, Twitter ne sont-ils pas la marque d'une nouvelle génération qui non seulement ne voudra pas protéger ces données, mais ira même jusqu'à les donner sans contrepartie? La question aujourd'hui n'est-elle pas donc celle de la valeur marchande de nos données? Si ces données sont une si grande source de richesse, ne serait-il pas plus juste qu'à défaut de protection, nous en ayons une part?
Alors, est-ce qu'il ne serait pas plus juste que nous en ayons une part? Avec certains logiciels, on peut savoir combien nos données rapportent aux entreprises web. Et je crois qu'il est d'ailleurs possible de vendre ou de louer ces données. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Pierre L'Hôpitalier?
C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. En fait, il y a, je ne sais plus combien d'années, enfin, ou de siècles. En fait, il y a eu il y avait un philosophe qui disait que, eh bien, la Terre, qui devait appartenir à tout le monde, c'était lorsque, en fait, nous étions surtout une société agricole, enfin. Et donc, la terre devait appartenir à tout le monde, et à ce titre, chacun devait recevoir une part, en fait, de la production de la terre, de l'exploitation des terres agricoles. Et on pourrait se dire, en fait, on pourrait faire un parallèle, alors ça vient pas de moi, hein, mais je lis des choses comme ça, où certains parlent d'un revenu minimum pour tous, basé sur l'exploitation de nos données personnelles, parce que c'est une partie de nous-mêmes, une partie de notre patrimoine qui est exploitée par des tiers. Voilà.
Qu'est-ce que vous en pensez, Anaïck Denis?
Moi, je pense qu'il est très dangereux de laisser ces données personnelles dans la nature, qu'on en soit conscient ou pas. Souvent, les gens sont pas vraiment conscients. Ils se disent « Ah, j'ai une communication privée sur Facebook, elle est privée ». Bah, c'est pas vrai. Des fois, les données sont piratées. Des fois, Facebook fait des erreurs de configuration et rend public des données qui étaient privées. Enfin, des échanges privés accessibles uniquement aux amis deviennent totalement publics. C'est arrivé il y a 2-3 ans, je crois, où des vieux messages sont devenus publics et ça a été vraiment très critique. Et puis, après, des fois, il y a des entreprises qui aussi collectent des données alors qu'on croit qu'elles ne les collectent pas ou qu'elles ne les ont plus. Sur Facebook, quand on supprime un message, il n'est pas supprimé, même si Facebook pose beaucoup de fois la question, paraît-il. Dans la base de données, c'est marqué comme étant dans un état supprimé, mais la donnée existe toujours dans la base de données. Et là, on a le cas, pareil, une nouvelle de cette semaine, une application Runkeeper que les joggeurs utilisent pour enregistrer leur performance et la communiquer à un groupe d'amis. En fait, on s'est aperçu qu'il envoyait des données, y compris quand l'application était dans un état inactif. Normalement, quand la personne ne croyait qu'elle fonctionnait pas. Donc, toutes les données de géolocalisation.
Mais toutes ces données, de toute façon, les entreprises les ont, les possèdent. Et sur la valorisation, vous, qu'est-ce que vous en pensez du fait qu'on pourrait avoir un avantage financier à les donner?
Alors en fait, vous en avez déjà. La plupart des services sont gratuits, alors que, par exemple, si vous vouliez que Gmail ne monétise pas vos données, vous pouvez très bien prendre un système de mail où là vous êtes sûr que vos données ne sont pas exploitées parce que c'est pas le modèle économique de l'entreprise. Par exemple, vous pouvez en France acheter des mails chez Gandhi ou chez OVH, qui sont des entreprises françaises, donc vous tombez sous la loi française. Ça coûte une quinzaine d'euros par an d'avoir une boîte mail avec 1 ou 2 gigas de stockage qui permet pour une personne qui a des échanges à peu près normaux de stocker 1 an de mail. Donc faut pas se leurrer, tous les services gratuits, pour moi, c'est déjà une part de monétiser. Enfin, voilà. Vous avez déjà monétisé vos données. Par contre, la question de la proportion est peut-être... Et peut-être totalement défavorable.
Oui, ce que vous disiez hors antenne, c'est que quand il y a un service gratuit sur Internet, c'est nous le produit.
Oui, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Il faut toujours se poser la question. Après, si c'est mené par une association, vous pouvez vous dire qu'elle fait ça dans l'intérêt général et que donc il y a une éthique derrière. Mais les entreprises commerciales ont des intérêts commerciaux.
Et quel est le périmètre du recueil des données? Est-ce que toutes les données peuvent être traitées, Marie-Pierre L'Hôpitalier? Je pense notamment à ce qu'on appelle les données sensibles, à savoir... l'origine ethnique, les opinions politiques, religieuses, la santé. Normalement, c'est interdit de collecter ces données. Est-ce que c'est vraiment le cas ?
Oui, alors normalement, c'est absolument interdit. Il faut une autorisation particulière de la CNIL. Je pense aux données de santé, par exemple. Les données, en revanche, tout ce qui est, comme vous dites, origine ethnique, etc., ça, c'est vraiment, vraiment interdit. Si vous en avez besoin pour... Alors là, je n'ai pas d'exemple en tête, mais si vous en avez besoin pour une utilisation particulière, peut-être sociologique, on va vous demander de les anonymiser. Et il faudra aussi prévenir la CNIL, enfin, toujours. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des données, donc absolument, il y a les données brutes, c'est-à-dire la météo, enfin, la composition des matériaux, enfin, que sais-je, les données brutes. Après, il y a les données personnelles, où là, il faut le consentement préalable de la personne, et ensuite l'autorisation de la CNIL, ou la déclaration auprès de la CNIL. Et après, il y a les données sensibles. Les données sensibles, c'est notamment les données de santé.
Et... Pardon, je vous coupe juste un instant. Sur les données personnelles, par exemple, qu'on envoie pour un site de e-commerce, est-ce que cette base de données doit faire l'objet d'une déclaration à la CNIL, par exemple ?
Oui, absolument. Ouais. Oui. Consentement d'abord de la personne concernée, et ensuite déclaration à la CNIL. Et en plus, il y a des déclarations qui sont extrêmement simples. Ça prend vraiment 3 minutes sur le site de la CNIL. La CNIL a vraiment facilité les choses, hein. Après, lorsque vous utilisez ces données-là à d'autres fins, parce qu'il faut prévenir pourquoi est-ce que vous le faites, si c'est en dehors de la constitution d'un fichier client, par exemple, qui est somme toute assez, assez banal, enfin, il faut bien que vous connaissiez en fait, vos clients, mais si vous l'utilisez à d'autres fins, alors là, il faut une autorisation de la CNIL.
Alors, c'est là où on va bientôt avoir un problème, hein, parce que le règlement européen qui a été voté en début d'année et qui va être applicable dès 2018 rajoute des clauses, si je ne m'abuse. J'ai pas eu la toute dernière version votée suite aux modifications du Conseil de l'Europe, mais dedans, il y a plusieurs clauses qui permettent à l'entreprise de réutiliser ou pas des données. Et dedans, il y a l'intérêt majeur de l'entreprise. Et alors là, du coup, on rentre dans un flou total.
Comme l'intérêt général, qu'est-ce que ça veut
voilà.
dire ?
Voilà. Et en face, on a le consentement éclairé de l'utilisateur et son intérêt. Et qu'est-ce qui va se passer quand les deux rentrent en conflit et que on... Dans les... Il faut savoir qu'un règlement européen va s'appliquer en droit français sans besoin de transposition. Donc c'est direct devant une juridiction française. On peut dire, voilà, il y a un règlement européen qui supplante la loi nationale. Et même si la loi nationale était jusqu'alors plus contraignante grâce... on avait vraiment une très bonne loi en France, hein, comme le disait Marie-Pierre tout à l'heure. Grâce à la CNIL qui existe depuis 1978, la France était très précurseur sur la protection des données personnelles. Eh bien, le règlement européen qui arrive va empêcher l'application des lois plus contraignantes qu'on avait en France. Et en règle générale, on arrive sur des problématiques de secret des affaires où les intérêts des entreprises supplantent les intérêts personnels. Et je pense que c'est pas gagné à l'avenir.
On va s'intéresser maintenant plus particulièrement à l'encadrement de l'utilisation des données par les fournisseurs d'accès à Internet, les FAI, et avec toi, Will.
Alors, Fait Maison, c'est une jeune association, enfin, qui a quelques années maintenant, mais déclarée comme fournisseur d'accès à Internet. Comment obtient-on l'autorisation de fournir des accès à Internet ? Est-ce qu'il y a un coût d'entrée quelconque pour s'inscrire en tant que fournisseur d'accès à Internet ?
Alors, en fait, pour devenir fournisseur d'accès à Internet, il faut faire une déclaration auprès de l'ARCEP, qui okay. n'est pas payante, je crois. Et il faut savoir qu'en France, il y a 1500 fournisseurs d'accès à Internet de déclarer. Et ont obligation de se déclarer FAI auprès de l'ARCEP toutes les personnes qui opèrent un réseau. Donc, opérer un réseau, ça peut être, dans le cadre d'Orange, avoir tout un réseau de cuivre, pour faire de la DSL, pour Orange et Free avoir, et Numéricable, d'avoir tout un réseau de fibres, fibrées, ou après, on peut essayer d'être dans tous les réseaux Wi-Fi, qui permettent aussi d'avoir de l'accès à Internet. Donc là, il y a une vraie obligation de se déclarer auprès de l'ARCEP et de rendre des comptes tous les ans, je crois que c'est sur les chiffres d'affaires et des choses light. Et derrière, en fait... ça entraîne que le fournisseur d'accès à Internet est exonéré de ce qui est fait en utilisant son réseau.
D'accord. Ça... Et du coup, on vient de parler de l'ARCEP un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette autorité ? Qu'est-ce qu'elle fait ? C'est quoi son rôle exactement ? Si vous savez.
Non. Marie-Pierre L'Hôpitalier.
Ça, c'est la question piège. Oui, elle va surveiller, effectivement. Elle va surveiller. Elle a des obligations. Si, c'est payant, en fait. Hein, il
c'est
faut,
payant.
Oui, c'est payant.
C'est pas hyper.
Je sais pas, je connais pas les montants. C'est l'autorité qui va surveiller. Ben oui, pourquoi pas? Parce qu'en fait, on va étudier, enfin, elle va vérifier le fameux principe de neutralité du web. Elle va, il y a des informations aussi qui circulent, donc, il faut qu'elle connaisse qui sont FAI. Alors attention, il y a des, lorsque, je rebondis sur le Wi-Fi. Beaucoup d'entreprises, en fait, ont des réseaux Wi-Fi, même aussi les hôtels, etc. Alors lorsque le Wi-Fi reste privé, même s'il est ouvert à des tiers, genre des prestataires qui viennent dans l'entreprise, etc., il n'y a pas besoin de déclaration à l'ARCEP. C'est considéré comme un réseau privé. Donc, à partir du moment où votre Wi-Fi n'est pas ouvert à tout le public, les gens qui sont dans l'immeuble d'à côté, etc., il n'y a pas de déclaration. Néanmoins, vous avez quand même des obligations de conserver les logs. Et
donc, les données de connexion au réseau.
Pardon. Oui, les données de connexion au réseau. Hein, lorsqu'une société a une borne Wi-Fi et peut l'ouvrir à ses sous-traitants, prestataires qui viennent, enfin, etc., les conseils qui viennent dans les entreprises, alors il est quand même fournisseur d'accès Internet, même pour ses propres salariés. Il a l'obligation de conserver pour une certaine durée très courte les données de connexion.
Les informations de connexion.
Et est-ce que les fournisseurs d'accès Internet collectent beaucoup de données ?
C'est énorme. On a un décret de 2011 qui avait fait un tollé en fait pour les fournisseurs d'accès parce qu'en fait ça, sur les serveurs ça prenait énormément de place hein. Et dans ce décret là pour la petite anecdote il est donc avec ce tollé là ils ont rajouté enfin les députés ont rajouté comme quoi les fournisseurs d'accès pouvaient demander à être remboursés des frais de serveur de place de serveur et ça n'a jamais été fait.
Alors, justement, on s'est réintéressé aux obligations légales de collecte et de conservation des données au sein de la Fédération FDN, qui est la Fédération des fournisseurs d'accès associatif à Internet, comme Fait Maison. Et on est 28 en France à l'heure actuelle, et c'est pas si clair que ça, en fait. Il y a des grosses surinterprétations de la loi. Et le fournisseur d'accès à Internet doit conserver ses logs mais les logs qu'il a constitués pour ses besoins techniques, en fait. Donc, il n'est pas obligé de loguer énormément de choses. Par exemple, une simple adresse MAC. Alors, il va falloir définir l'adresse MAC.
C'est l'identifiant de la carte réseau, en fait.
Voilà. L'identifiant de la carte réseau qui se connecte est une donnée de connexion. Et c'est la seule donnée de connexion nécessaire. Il n'a pas besoin de savoir qui était derrière cette adresse MAC, par exemple. Et ça, il n'a pas besoin de le conserver non plus.
Mais donc, pourtant, c'est le cas pour beaucoup de...
Ben, ça dépend qui. Et en fait, beaucoup de FAI vont surinterpréter la loi, conserver énormément de données. Et du coup, à partir du moment où ils loguent ces données-là, ils ont l'obligation de les conserver pendant un an. Ce qui va d'ailleurs à l'encontre de lois européennes. Là-dessus, il y a des recours au niveau du Conseil d'État, parce que la France oblige à des délais de conservation qui vont au-delà de l'Europe, et une association en Irlande, Digital Rights, a gagné d'ailleurs a gagné un recours pour faire tomber un décret d'application ou une loi là-bas, parce que l'Europe estime que déjà 3 mois c'est pas mal. Donc on est à 1 an en France et on est clairement à l'encontre des lois européennes, mais bon.
Alors je tiens à dire que on avait invité quelqu'un d'Orange pour pouvoir les interroger sur toutes ces questions-là. Ils ont décliné notre invitation. Alors c'est peut-être en raison de leur condamnation il y a quelques mois par la CNIL, qui estimait qu'Orange n'avait pas assez sécurisé ses données et avait fait l'objet de vol. En tous les cas, ils sont pas là, mais on va continuer à parler de l'enjeu des données personnelles, mais on fait avant une petite pause musicale. Yo, this Cisco, who this? What's the dilly? I just touched grounds down in Philly, brought a pound with me. Fans floating around silly, trying to find limb. Bitch supposed to be in the Benz, parked in row 10. Hard and ass, slow hoe Gwen. Should've known she was a bitch, that we both could've boned. If posted alone, the ass had us both in the zone. But you know the rules, both been schooled by older dudes. I know the Jews, no time for them doors, too much to lose. Just trying to vibe until them hoes roll with the vibe. Where's your joint pride? You know little desk got your eyes in the cut, drop. Tops up, left them all, bought little Amar the toy truck. Your boy's what, 3 years old now, correct? He and my daughter age neck and neck, they future set. Trees got me wet, in the background's an old cassette. Fly Stephanie Mills shit, what's to deal with? All the shit I'm hearing up top, you got arrested. Shot a fair one with a cop, that ain't your steed. You usually low key with no T. I'm only going off for what some weak bitch told me. That's some ill shit, there that bitch go with a cloak. Done, I hit you right back.
From a while back, same foul gas who tried to bust me. Caught him sleeping in Spanish Harlem with some Puerto Ricans. Up in Washington Heights, right off the deacon. Feel awful speaking for some visa. Fill the phones, tap along with gas. Left with a vest to watch my own back. Keep your eyes open, stay wise, shit is mind blowing. Look for any signs showing one time it's knowing. About the dynasty, shit is not minor leagues no more. Cats bleed in this cold war. Son, we took an oath, then this life took us both. We rich now, milk the whole cow, split the growth. Now I'm on the car, do it, headlights on. Fluid in the windshield, wipes gone. A slight storm, storming in the sky. You coming home tomorrow, will you drive or will you fly? Hold up, my other side. Yo, son, some other cats trying to ruin our plan. Sending two decoy bitches with pictures of you and your man. Asking your whereabouts, I gave them no leads. For all a nigga know them hoes, fuck with police. No shit, I'm clicking over, I'ma tell so's quick, son. Them out of state bitches trying to get us both hit. That was Nate, he hit me last night late. While in my whole stomach, said it's no running. We FBI most wanted. So play the low, change your clothes, pack your bags. Watch what you say on this phone, get home fast.
We got your phone tapped, what you gonna do? Cause sooner or later, we'll have your whole crew. All we need now is the right word or two to make it all stick like glue. Dig you through, we got your phone tapped, what you gonna do? Cause sooner or later, we'll have your whole crew. All we need now is the right word or two to make it all stick like glue. Got you.
Yeah, it's all good. I'ma hit you when I touch down tomorrow, son. Well,
stay on point. Don't even use the phone. Just come to my crib, yo. Word up.
Out.
Cité à la Une sur Prune 92 FM et le www.prune.net.
Il est 13h34, on écoutait à l'instant The Firm et leur morceau Phone Tap. On vous parle aujourd'hui de l'enjeu des données personnelles, un thème cher à Fabrice Matatia. Il est ingénieur, juriste et ancien conseiller de la secrétaire d'État au numérique. Il est l'auteur de Le droit des données personnelles et Maxime l'a contacté.
Bonjour Fabrice Matatia. Vous êtes expert numérique au ministère de l'Éducation nationale, docteur en droit spécialisé dans les lois sur les services numériques, enseignant à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'université de La Rochelle. Et vous êtes expert pour l'Union européenne, vous êtes l'auteur de quelques ouvrages, parmi lesquels Le droit des données personnelles, dont la deuxième édition est parue en avril dernier aux éditions Erol. Il s'agit d'un ouvrage qui propose un point précis sur le droit des individus à voir leurs données personnelles protégées, sur les obligations des organisations et des entreprises en la matière, et sur les sanctions encourues en cas de manquement. Alors sur les sites sur lesquels nous nous inscrivons, nous pouvons avoir accès aux données, c'est le droit d'accès aux données. Vous racontez, Fabrice Matatia, dans votre livre, le cas de Max Schrem, un étudiant autrichien, qui a demandé à Facebook une copie de l'intégralité des données le concernant, et après 6 semaines, il a reçu 1222 pages au format PDF. Mais concrètement, malgré le fait qu'on ait accès en tant qu'utilisateur à nos données, on ne peut pas les récupérer définitivement.
Alors on peut y avoir accès, donc le droit d'accès, c'est en effet vous pouvez les récupérer sous forme PDF, ça a assez peu d'intérêt en tant que tel, c'est vrai. Sauf dans le cas de Max Schrems, où ça a généré un véritable scandale, dont les répercussions se font encore sentir actuellement, puisque du coup il a déposé plainte, et c'est à la suite de cette plainte que les moyens de transfert des données personnelles vers les États-Unis ont été invalidés par l'Union européenne. Donc on est en pleine crise diplomatique avec les États-Unis en ce moment à cause de ça. Alors c'est sûr que récupérer vos données sous PDF, ça n'a pas tellement d'intérêt. C'est pourquoi l'Union européenne vient d'adopter de nouveaux textes qui prévoient qu'à partir de 2018, on pourra exiger de les récupérer sous un format exportable. C'est le droit à la portabilité. Donc on pourra récupérer ces données sous un format lisible et éventuellement les réenvoyer vers un nouveau prestataire si on a envie de changer de fournisseur.
Mais récupérer les données, l'entreprise les garde également.
Alors, l'entreprise n'a pas le droit de garder les données si vous fermez le compte chez elle.
D'accord. Alors il reste néanmoins des difficultés pour la protection des données personnelles, notamment avec les réseaux sociaux, puisque se désinscrire d'un réseau social reste assez compliqué. Vous expliquez notamment dans votre livre que l'internaute doit alors supporter les conséquences de ses divulgations pendant le reste de sa vie. Fabrice Matatia, il n'existe donc aucun recours pour les utilisateurs, aucune loi n'encadre la suppression des comptes et des données sur les réseaux sociaux?
La loi impose de supprimer les données une fois qu'elles ne sont plus pertinentes ou plus à jour. Ensuite, c'est très difficile de faire disparaître une donnée qui a été diffusée sur Internet et qui a pu être reprise sur de nombreux sites. Alors c'est pour ça qu'il y a également désormais en Europe ce qu'on appelle le droit au déréférencement, parce qu'en fait la plupart des gens, lorsqu'ils vont chercher une donnée, ils ne savent pas où elle est, ils vont passer par des moteurs de recherche comme Google pour y accéder. Et donc là, ce qui a été fait, c'est que si jamais une donnée, elle est peut-être vraie, mais elle est ancienne, elle n'a plus d'intérêt, et elle est éventuellement gênante pour la personne qui est concernée, et donc du coup, on peut demander au moteur de recherche de ne plus référencer cette donnée. Donc elle est toujours en ligne, mais les gens qui font une recherche ne la trouvent plus.
Mais le moteur de recherche ne la supprime pas.
Ah non, lui, il la supprime pas, puisque c'est pas lui qui l'a. Le moteur de recherche ne fait que vous aiguiller vers un site où la donnée se trouve. Et là, en l'occurrence, le moteur de recherche arrêtera de vous aiguiller vers ce site.
Alors, pour revenir à Facebook, le réseau social garde toutes les données de chaque utilisateur, de chaque inscription.
Tant que le compte n'a pas été supprimé, oui.
Il paraît pourtant difficile de supprimer définitivement son compte. Est-ce qu'on est certain qu'il n'y a aucune donnée de gardée par le réseau social?
Le problème, c'est qu'il n'y a pas que des données. S'il n'y avait que ce que vous avez mis en ligne vous-même, vous mettez des photos en ligne et ensuite vous décidez de les retirer. Donc là, c'est simple. Le problème, c'est que tous ces réseaux sont faits d'interactions. Et donc à partir du moment où vous mettez des commentaires sur des données publiées par d'autres, sur des photos, sur des contenus, à partir du moment où vous discutez avec d'autres, et donc il y a des échanges qui sont faits, c'est très difficile de supprimer la moitié de l'échange.
Oui.
Donc du coup, tant que l'échange reste en ligne, parce que l'autre interlocuteur, lui, reste en ligne, du coup, vous ne pouvez pas supprimer ce que vous lui avez répondu.
Alors les difficultés de gestion des données personnelles sur les réseaux sociaux sont généralement connues des utilisateurs, mais en revanche, on connaît moins la gestion de nos données de santé. Les établissements de santé, les professionnels de santé s'informatisent et doivent donc conserver les données médicales de leurs patients. Est-ce qu'il existe, Fabrice Matatia, des règles spécifiques définies par la loi pour la protection des données de santé?
Oui, tout à fait. Donc d'abord, les données de santé sont déjà des données personnelles, donc tout ce qui est appliqué applicables aux données personnelles s'appliquent aussi aux données de santé, par exemple l'obligation de sécurité.
D'accord.
Et ensuite, il y a des règles particulières pour les données de santé. Par exemple, si vous avez recours à un prestataire pour stocker à l'extérieur vos données, donc vous ne les conservez pas vous-même, vous êtes un médecin ou un laboratoire d'analyse et vous louez un serveur quelque part pour mettre vos dossiers, et bien dans ce cas-là, ce prestataire doit avoir obtenu un agrément du ministère de la Santé.
Et les règles, est-ce qu'elles sont les mêmes pour les sites et les applications qui nous proposent d'archiver électroniquement nos données de santé et notre dossier médical ?
Alors ça, ce sont des règles qui s'appliquent pour les clients professionnels. C'est-à-dire que votre médecin, s'il veut externaliser ses dossiers médicaux, il doit avoir recours à un prestataire agréé. Ensuite, si vous, en tant que particulier, vous voulez vous créer un dossier médical quelque part, c'est plutôt de l'ordre du consentement individuel. Donc là, du coup, les règles sont que le prestataire doit respecter de nouveau les obligations de sécurité, les obligations de confidentialité. Mais vous, en tant que particulier, vous décidez de mettre des choses chez lui, c'est votre responsabilité.
D'accord. Alors la CNIL, la Commission nationale de l'information et des libertés, a notamment pour mission d'informer, protéger, mais aussi de contrôler et de sanctionner. Comment la CNIL effectue-t-elle ces contrôles? Quelles sont les sanctions possibles?
Alors la CNIL a un pouvoir de contrôle qui est assez étendu, c'est-à-dire qu'elle a le droit quasiment de perquisitionner. Ce n'est pas la police, mais elle a un droit de perquisition, on va dire. Elle peut entrer dans n'importe quel locaux et elle peut saisir tous les fichiers, faire une copie de tous les disques durs. Donc à partir de ça, la CNIL va donc avoir une idée assez exacte de ce que fait une entreprise. Si elle se rend compte que cette entreprise n'est pas conforme à la loi, elle va la mettre en demeure de remédier aux différents manquements. Elle va lui donner un mois, deux mois, trois mois pour se mettre en conformité. Et si ce n'est toujours pas fait, au bout de ce délai, la CNIL peut prononcer une sanction. Donc la sanction, ça peut être soit un avertissement public, donc c'est-à-dire qu'on dit publiquement que la société a failli à ses devoirs, soit ça peut être une sanction pécuniaire qui peut aller jusqu'à 150 000 euros actuellement.
Ce qui a été le cas pour Google en 2014.
À plusieurs reprises, oui, Google a été sanctionné à plusieurs reprises, dont une fois pour 150 000 euros. Alors évidemment, c'est un montant pour Google, c'est un montant qui est très très faible et qui n'est pas du tout dissuasif. C'est pourquoi le nouveau règlement européen qui s'appliquera en 2018 porte ces sanctions à 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise.
D'accord. Il existe également des correspondants de la CNIL.
Alors ce qu'on appelle les correspondants informatiques et liberté, ce sont des personnes dans l'entreprise qui ont pour but de servir un peu d'interface, c'est-à-dire de veiller à ce que l'entreprise en interne connaisse la loi déjà et se mette en conformité avec elle, et du coup de servir d'interface avec la CNIL pour tout ce qui est les dossiers, les formalités administratives, le respect des lois.
Merci Fabrice Matatia.
Je vous en prie.
Alors Fabrice Matatia en parlait à l'instant, la CNIL, elle a été créée en 78 dans le cadre de la loi dite Informatique et Liberté. Jusqu'à présent, c'est toujours elle qui régit la protection des données, mais aujourd'hui le pouvoir de la CNIL reste assez faible face aux milliards de données qui circulent sur Internet. Qu'est-ce que vous en pensez Marie-Pierre L'Hospitalier ?
Oui et non, c'est-à-dire qu'elle a oui sur l'étendue, non parce qu'elle a un pouvoir qui grandit d'année en année, avec des moyens et un budget qui grandit d'année en année. Il faut dire aussi que le numérique va très très vite, donc non, je trouve qu'elle est assez performante. Elle met énormément de moyens à notre disposition sur son site. On peut aller sur son site, on peut déposer une réclamation directement sur le site. Du côté des entreprises, je vous disais tout à l'heure, en 3 minutes, on peut déclarer son fichier. Donc, ils ont un call center si vous avez des questions. Non, je trouve que ça fonctionne très bien. Ça fonctionne bien.
Vous êtes d'accord, Anaïk Denis ?
Non. Ce que vient de dire Marie-Pierre n'est pas faux, mais pour moi, il n'y a pas d'effet, en fait. Les données, à partir du moment où elles sont collectées, déjà, elles ne sont pas forcément bien protégées. On parlait de la façon dont étaient stockés les mots de passe un peu plus tôt dans l'émission. Et une bonne pratique de la part des personnes qui font les systèmes d'information de sites, normalement, c'est de ce qu'on appelle saler les mots de passe. Ça veut dire que la façon dont est stocké le mot de passe de manière chiffrée, il rajoute une clé en plus, ce qui fait qu'il n'est pas possible de faire directement la correspondance entre, par exemple, le mot du dictionnaire que vous avez utilisé, je ne sais pas, cheval ou mon chat, et la façon dont ça a été chiffré dans la base de données. Or, même LinkedIn, qui est une énorme entreprise qui a beaucoup de moyens, l'a pas bien stocké. Des fois, on s'aperçoit que les mots de passe sont stockés en clair, sans avoir été hachés. Donc,
et ça devrait faire l'objet de sanctions, selon vous ?
Ben, normalement, quand on remplit le petit formulaire de la CNIL, là, je l'ai fait il y a pas si longtemps que ça pour un petit site qui collectait de la donnée personnelle, on s'engage à protéger les données. Or, la compétence et la volonté derrière est pas forcément là. Et moi, ce qui me fait très très peur, c'est toutes les startups ou pas, qui travaillent sur les objets connectés et qui se disent « Oh, pff, la sécurité, c'est pas grave, on verra ça plus tard. »
C'est pas le rôle de l'ANSSI, l'Agence Nationale pour la Sécurité des Systèmes d'Information, de montrer les outils et de guider vers une sécurisation des données, ou est-ce que...
Ouais, mais est-ce qu'au jour le jour, les développeurs et les administrateurs des entreprises consultent ces recommandations et ces avis? Moi, je pense que, enfin voilà, on voit que sur certains objets connectés, les données circulent en clair par Bluetooth, entre appareils, voilà, ou sont pas forcément stockées comme il faut, et des entreprises qui naissent et qui sont sur une vague, enfin qui sont un petit peu pressées d'avancer, se disent oh bah la sécurité on verra ça plus tard, c'est pas gênant. Et il y a un site dont on mettra l'URL
sur le site de Prune
qui montre toutes les fuites de données qu'il y a eu depuis les années 2000 quelque chose dans le monde entier par catégorie. Donc il y a gouvernementaux par exemple, des bases de citoyens, de vote, ou alors des données de santé. Il y a beaucoup de données de santé qui ont fuité un peu partout dans le monde. Après, tout ce qui est entreprise, etc. Et c'est assez hallucinant, des fois, le nombre de millions de comptes qu'ont fuité, soit par des négligences, soit par des hacks, soit par des volontés d'employés en interne qui veulent dénoncer certaines données collectées. Mais on vous mettra le lien, c'est une infographie et c'est assez... moi, j'ai découvert hier en faisant des recherches, en fait. C'est assez hallucinant, quoi.
Alors, on essaye de réglementer le problème des données personnelles. Au niveau français, c'est le projet de loi pour une république numérique, qui ne comprend pas seulement ça, mais il y a un aspect sur les données personnelles. Au niveau européen, c'est un règlement sur la protection des données personnelles qui devrait entrer en application en 2018. Est-ce que ça va, selon vous, vers une amélioration pour les utilisateurs, Marie-Pierre L'Hôpitalier?
Je sais pas si ça va vers une amélioration. Oui, enfin, il va y avoir un renforcement des pouvoirs, il va des moyens également. Mais comme on disait au tout début, hein, il faut que chacun soit responsable de ses propres données aussi. Hein. La CNIL, c'est pas Harry Potter. Hein. La CNIL, elle a pas une baguette magique. Elle va intervenir, elle va surveiller. Il y a une loi qu'il faut qu'elle essaye de faire respecter, mais il faut aussi l'alerter. Je pense que c'est à chacun d'alerter.
Et c'est important que l'Europe ou la France se prennent des dispositions légales.
Pour être homogène, mais ça existe déjà. Hein,
ouais. Alors, il y a plus de 11 droits qui vont être reconnus à la personne au lieu de 3 actuels par rapport aux données personnelles dans ce nouveau règlement européen. Donc, c'est quand même qu'il y a une amélioration.
Il y a peut-être une prise de conscience. Voilà.
Et on a l'impression... en regardant tout ça, que les réglementations françaises et plus généralement européennes restent quand même assez laxistes sur la protection des données personnelles. Est-ce que vous deux, vous seriez assez partisane du modèle suisse qui a mis en place une protection très stricte de la vie privée en interdisant pratiquement tout traitement de données non explicitement autorisé par la personne intéressée? Est-ce que c'est un cadre que vous enviez?
Alors moi, je trouve ça très intéressant. Et d'ailleurs, il y a des hébergeurs de mails qui se sont... situé en Suisse pour bénéficier de ce droit-là, en particulier au moment des révélations de Prism, où on s'est rendu compte qu'il y avait des vannes ouvertes entre la NSA et tous les hébergeurs et services, tous les GAFAM dont on a parlé précédemment. Et je me rappelle d'un service mail qui s'était créé là-bas pour des personnes qui voulaient être sûres qu'on respecte leur vie privée. Après, maintenant, faut peut-être être aussi un peu réaliste. On vit dans ce monde-là et il faut s'en protéger. Et je crois qu'on en parlera un petit peu plus tard. C'est aussi arrêter de laisser ses données personnelles un petit peu partout. Mais il ne faut pas croire que c'est parce qu'on ne met pas certaines données qu'elles ne sont pas accessibles. Par exemple, on parlait de l'origine ethnique, qui est une donnée sensible. Il y a deux chercheurs qui ont très très récemment fait une étude, ces deux étudiants, et qui ont regardé par rapport à des données qui étaient publiquement disponibles. Hein. Ils n'ont pas eu accès à des données privées. Ils ont fait des recoupements et ils ont réussi à trouver à 80% où habitait la personne. Et je crois que c'était à 70% son origine ethnique. Donc, de par les données qu'on laisse, il peut y avoir beaucoup d'informations de laisser. Ils arrivaient même à trouver à 60% si la personne prenait des drogues, et à des pourcentages aussi assez élevés, enfin, sur différentes informations de santé. Enfin, Faut pas se leurrer, on laisse plus de données que ce qu'on croit en fait d'accessible.
Et donc ils ont fait sur quelle base de données ils ont récupéré tout ça?
Je pense que c'est sur du Facebook, sur du réseau social en règle générale.
Du réseau social
avec les données qui étaient publiques de ces réseaux sociaux là.
Et justement, on parlait tout à l'heure d'explicitement donner l'autorisation pour l'utilisation de ces données, etc. Tout ça, c'est dans les conditions d'utilisation. Qui ne sont malheureusement pas lues parce que pas claires en fait.
Alors ça va au-delà, hein. On n'est pas dans l'opt-in et l'opt-out. Alors je connais pas de manière pragmatique le modèle suisse dont vous parliez tout à l'heure. Cela dit, il faut savoir que ça existe, c'est-à-dire qu'en France, on n'a pas le droit de recueillir des données personnelles sans le consentement. Le consentement, il doit être recueilli de manière active. Et ça veut dire quoi de manière active? C'est le fameux opt-in, c'est-à-dire qu'on coche la case ou on écrit une petite croix si c'est sur du papier. Hein, c'est pas caché dans les conditions générales.
D'accord.
Oui, mais on semble très peu informé en fait des conséquences que ça peut avoir de donner toutes ces données.
Mais on parlait de responsabilisation de chacun, hein, je crois.
C'est peut-être le travail de la CNIL aussi justement de sensibiliser à cela.
Elle surveille, elle a un site ouvert, voilà, je trouve que elle met quand même beaucoup beaucoup de moyens à la disposition de chacun.
Alors la protection de la vie privée, c'est un principe inscrit dans le Code civil français et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies. En fait, on a l'impression qu'il y a un paradoxe en quoi les données personnelles ne relèvent pas de la protection de la vie privée.
Si, elles sont en lien, effectivement. Si à partir des données personnelles, vous pouvez connaître et comprendre la vie privée de quelqu'un et l'utiliser, et que ça cause un préjudice. Il faut que ça cause un préjudice aussi. Il ne faut pas que ça reste secret. On peut être voyeur si ça reste secret. Mais si ça cause un préjudice, alors oui, vous pouvez protester sur le fameux article, le fondement de l'article 9 du Code civil.
Ouais. Oui, il y a des recours possibles en justice.
Bien sûr. Oui, on parle que de la CNIL, mais le juge est là également. Hein, bien sûr.
Et vous, c'est votre travail.
Mais toujours par rapport à ce qu'on croit laisser dans les données. Des fois, on dit ah bah il y a que l'IP qui permet de remonter à l'identité de la personne, et c'est faux. Enfin, au-delà de l'adresse IP, enfin de par les communications, les métadonnées qui transitent, etc., on peut très facilement remonter à l'identité d'une personne. Et je crois qu'il y a des gens qui se sont amusés à faire des petites études sur une base anonymisée de AOL, je crois, qui date d'il y a plusieurs années. Et en fait, c'est d'une extrême facilité de remonter à l'identité de la personne. Donc au final, tout ce qui transite dans les communications devrait être de la donnée personnelle, mais n'est pas forcément reconnu comme tel. Il y a aussi des flous réglementaires et juridiques nés de l'incompréhension de comment fonctionnent les réseaux de la part du législateur. Enfin, c'est vrai qu'ils sont...
Et du coup, ça me fait penser à l'empreinte en fait qu'on laisse sur Internet, notamment des informations qu'on n'a pas explicitement donné l'accord pour qu'elles circulent. Je pense notamment à la résolution de l'écran, aux plugins utilisés dans le navigateur utilisé, le système d'exploitation utilisé. Enfin, il y a tout un tas de données comme ça qui circulent sans dont Internet a besoin pour fonctionner, mais qui circulent sans notre consentement. Est-ce qu'il y a des moyens de lutter contre ce genre de choses? Si oui, comment on fait?
Alors effectivement, on s'aperçoit que chaque connexion à un ordinateur est unique. Il y a un petit site pour aller vérifier ça, dont on vous donnera l'URL aussi, parce que je ne me rappelle plus du tout du nom du projet.
C'est amayunique.com.
Voilà, amayunique. J'ai essayé, je ne suis pas unique du tout avec ma douzaine de plugins pour respecter ma vie privée. Et par contre, on peut utiliser Tor Browser. Tor Browser, c'est un navigateur internet qui est basé sur Firefox, qui a très peu de plugins par défaut, qui a une résolution par défaut. Alors, ne vous amusez pas à agrandir la fenêtre, par exemple, parce que ça donnera déjà une indication sur votre résolution d'écran. Et si vous naviguez avec ce navigateur-là, en plus, l'adresse IP de laquelle part votre connexion ne pourra pas être identifiée non plus, parce qu'elle fait ça a recours au réseau Tor. Le réseau Tor est un réseau qu'on appelle en oignon. Ça veut dire que vos communications vont passer par plusieurs serveurs successifs. Et donc, le site sur lequel vous allez surfer, par exemple, n'aura pas connaissance de votre adresse IP d'origine, mais uniquement du dernier serveur Tor d'où ça sort. Et donc, il y a tout un système de réseau de confiance qui fait que donc votre IP ne sera pas connue. Ensuite, les spécificités de votre ordinateur ne seront pas connues non plus. Et donc, ça permet vraiment de garantir un anonymat. Alors après, c'est sûr que si vous vous connectez à vos comptes Gmail avec des infos personnelles, il n'y a
plus d'anonymat. Il faut aussi être responsable de ce qu'on fait derrière. Mais on peut avec des outils assez simples, et ça s'installe très simplement en allant sur le site
merci
du Projector.
Merci Annick Denis, merci Marie-Pierre L'Hôpitalier. Il est 13h54 sur Prune. Et avant de se quitter, on écoute le billet de Guillaume Aubois, c'est la lettre à Élise.
Vous écoutez La Lettre à Élise, chronique amoureuse de l'actualité, présentée par Guillaume Aubois.
Chère Élise, j'hésite. Dois-je me mettre à la page, renoncer au papier pour ne plus vous froisser et vous courtiser par messagerie instantanée, au risque de vous tanner à chaque instant ? J'hésite, réellement, à intégrer cette époque dématérialisée, uniformisée, en un mot, informatisée. Évidemment, je ne puis continuer décemment à ignorer cet appendice de communication, mais je n'ai pas encore trouvé d'émoticône capable d'exprimer la profondeur et la nuance de mes sentiments, et je doute réellement que je puisse rendre grâce à votre beauté, votre regard plein d'esprit qui me hante, votre nez raffiné de gisant égyptien, vos lèvres en cocon de baiser papillon, uniquement avec un pouce levé. Pour les préliminaires, le pouce, je ne dis pas, mais pour le jeu de plaire, mamie, là je dis pouce. Je ne ferai pas plus le pan sur Twitter, et j'ai bien conscience, ce faisant, d'être en retard même sur la classe politique, qui, manquant sérieusement de classe, use et abuse du petit oiseau, Denis Baupin en tête. Il n'y a que Nicolas Sarkozy qui tente, tant bien que mal, de nous faire croire qu'il est le seul candidat à ne pas avoir trouvé son programme sur le bon coin. Au cours d'un reportage d'investigation pour Prune, j'ai pu me rendre compte de la démocratisation de cet outil, quand bien même la liberté y est très surveillée, et où la publicité est reine et la vie privée donnée en pâture, le pouce baissé. J'ai été chargé d'aller à la rencontre des hommes et femmes politiques de tous bords, en commençant par la vice-présidente, Ségolène Royal, qui avait ses vapeurs et m'accueillit donc en ces termes.
Oh, bienvenue au ministère de l'écologie. Comme vous le voyez, nous avons le Wi-Fi dans toutes les pièces, mais également le Oui Garçon, car c'est important la parité, ça marche dans les deux sens. On capte donc Internet partout, même dans les toilettes sèches. Vous savez qu'on le prenait pour un fou au début. Mais si Georges-Henri Sèche, qui a inventé les toilettes qui portent son nom, s'il pouvait voir la postérité, la modernité de son œuvre, il serait fier aujourd'hui. Vous devriez consulter sa page Wikipédia. Ce sont trois lignes passionnantes.
Puis, nostalgique, après avoir avalé un sandwich au Jardin des Tuileries, je fis un court détour chez un ancien président de la République qui a perdu la santé où il aurait dû finir.
Bonjour, bonjour. Vous vous souvenez de moi, non? Alors, je dis ça parce que les jeunes, quand on leur parle de moi à l'école maintenant, ils ont l'impression que c'est le Moyen-Âge. Ils m'appellent Jacouille la Fripouille, figurez-vous. Tandis que je ferme ma session, je chattais avec Bernadette. De toute façon, elle veut plus me voir. Je l'aperçois de temps en temps par la fenêtre. Son coiffeur habite en face. C'est lui le responsable de sa choucroute, vous savez. Elle voulait ressembler à Marilyn. Eh ben, c'est réussi. On dirait Marilyn Manson. Vous savez qu'elle passe des heures là-bas, avec des bobinettes dans les cheveux, et à la fin, elle tire sur la chevillette et la Bernadette Chirac.
Enfin, je retrouvais la Bretagne, terre de contraste, et Jean-Marie Le Pen, tête de Condras.
Silence, Himmler!
C'est vous, entrez. Alors, j'étais justement en train de consulter le site frontnational.com. J'aurais préféré .fr, n'est-ce pas, mais ils ont décidé de paraître .com. J'ai vérifié, et vous savez que depuis mon éviction, ils ont effacé toutes mes vidéos YouTube. Ce sera comme si je n'avais jamais existé, comme les camps, dira-t-on.
En relisant ces quelques lignes, je me suis souvenu que mon correcteur orthographique ne reconnaissait pas le nom d'Himmler. Et c'est heureux. À la place, il m'avait proposé Immolé. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Voili, voilou, voilà. Ma tendre Élise, j'aimerais tant, comme par magie, faire un tour sur moi-même et me réactualiser, avoir des rides en moins, de l'innocence en plus, et un vocabulaire aussi pauvre et démuni que mon cœur. Mais les dieux sont railleurs, ou simplement ailleurs. Dans tous les cas, nous avons un problème de liaison. Ils ont oublié de faire de moi un homme branché, je suis à part, par leur faute. Je suis une erreur des dieux qui en font pourtant si peu. À coup sûr, je prendrai de la valeur en vieillissant, mais en attendant, je vous aime, Élise, et j'espère qu'un jour, vous m'aimerez aussi.
Ya, 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 ya,
fait pour toi, et brûlant.
Merci à Christian Briand d'avoir accompagné Guillaume dans sa lettre à Élise aujourd'hui pour les imitations. L'émission touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à nos invités, Anaïck Denis, membre de Fait Maison, fournisseur d'accès Internet associatif, et Marie-Pierre L'Hôpitalier, avocate à Nantes, spécialiste dans le droit informatique. Je remercie également l'équipe qui a participé à l'élaboration de l'émission, Will, Maxime et Boris à la réalisation et Louise à la programmation. Cité à la Une revient dans 2 semaines, en présence de toute l'équipe dans les studios. On parlera des illusions politiques et je ne vous en dis pas plus, ce sera la dernière de l'année, donc on vous concocte une émission aux petits oignons. En attendant, vous pouvez réécouter toutes les émissions sur le www.prune.net. Tout de suite, retour de la playlist et à 17h30, retrouvez le Ghetto Blaster du jeudi avec en live Rezinski. Bonne journée à tous à l'écoute de Prune.